Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Longtemps, pour les Français, le rouge et le noir évoqua Stendhal. Puis, vers la fin du siècle dernier, débarqua Jeanne Masse, star globe-trotteuse, gothique et hypnotique, qui fit hurler des millions de fans, et vaut mieux que sa légende. Depuis 17 ans, Jeanne Masse vit aux États-Unis, a monté ses boîtes de production, et revient de temps en temps chavirer le cœur des Français, comme si c'était la toute première fois. Jeanne Masse, qui est une végane convaincue, publie chez Hugo New Life, Génération Végane, un ouvrage vraiment magistralement documenté et argumenté pour tous les apprentis vegan. Je suis ravie de vous recevoir.
Mais je suis ravie d'être ici.
Jeanne, l'américaine. Bon, Jeanne Masse, ces tatouages, un petit peu comme une fiche d'identité gravée dans votre chair, sur le bras droit, born to be wild,
ouais.
Voilà, né pour être
avec
sauvage,
le petit lapin.
Voilà, et puis sur le bras gauche, vegan.
Oh yeah.
Vous les portez depuis longtemps ?
Oui, de temps en temps, voilà, j'ai arrêté parce que je me suis aussi intéressée aux métaux lourds et je me suis dit, peut-être qu'il y en a dans l'encre, donc j'ai arrêté.
Ah, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Alors, mais bon. Ils ne le savent pas, hein, donc les tatoueurs.
Végétarienne, vous l'étiez jusqu'en 2012. Alors, j'aimerais comprendre, savoir ce qui vous a poussé soudain, il y a 10 ans, à adopter le protocole vraiment le plus radical. Parce que devenir végane, c'est ne plus se nourrir que de légumes, de fruits, de graines, de noix, de lait végétaux et d'algues.
Oui.
Alors, pourquoi être passé carrément du végétarisme au véganisme ?
Alors, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, c'est renoncer au cuir, c'est renoncer à tout ce qui provient de l'animal, c'est être contre l'exploitation des animaux. C'est, en fait, ça va très très loin. Le véganisme, c'est une philosophie. Et en fait, ce qui m'a poussée à passer directement de rendre mon alimentation totalement végétalienne, c'est que j'avais l'impression que je ne faisais pas les choses à fond, que j'étais restée à moitié du chemin. C'est, j'avais commencé, j'avais éliminé la majorité de tout, mais il me restait encore les œufs. De temps en temps, j'en mangeais. Je prenais des yaourts de chèvre parce qu'évidemment, ceux de vache, je ne les digérais pas. Et puis, je prenais de temps en temps du miel et je me suis dit, mais tu peux te passer de tout ça. Et en fait, j'ai tout éliminé et je me suis sentie mieux.
Alors, vous dites, c'est une philosophie de vie, effectivement, devenir végane. Philosophie de vie qui touche un peu plus de 5% de la population mondiale, dont près de 3% de la population française. Mais c'est effectivement radical, car un végane ne consomme absolument aucun produit d'origine animale. Il mange même pas, comme vous voulez le dire, de miel. Donc, il reste peu de choses quand on retire la viande, on retire le poisson, les crustacés, les laitages, les œufs, les fromages.
Il reste peu de choses pour la société dans laquelle on vit. On a l'impression qu'en fait, on va se dépouiller de tout, mais en fait, on ne garde que l'essentiel. Et l'essentiel est dans les graines, et dans les végétaux, dans les fruits, dans les oléagineux, dans les noix. Mais c'est ça l'essentiel, c'est ça dont on a besoin. Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur de manquer, mais les gens n'analysent pas ce dont ils ont réellement besoin. En fait, on se gave, mais on ne se nourrit pas.
Et vous dites qu'avec nos régimes carnivores, en fait, on se gave de toxines.
Oh oui, essentiellement de toxines. On le sait aussi, je veux dire, la charcuterie est ce qu'il y a de pire pour le corps humain, parce que ce n'est que de la graisse et du sel. Et quant à la viande, malheureusement, la viande, lorsqu'elle arrive dans votre assiette, déjà, vous ne savez pas d'où elle provient. Même ceux qui me racontent, oui, je mange de la viande bio, de toute façon, on peut te raconter ce qu'on tu veux, parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi. Et puis, il faut savoir que la viande qui arrive dans votre assiette, en général, ce sont des pauvres vaches qu'on a exploitées pendant 4 ans, qu'on a vidé du lait, de tout le lait qu'on pouvait sortir d'elles, qu'on envoie à l'abattoir. Elles sont remplies de vaccins, elles sont remplies d'anti-inflammatoires, elles sont remplies de pesticides et également d'antibiotiques.
Et de stress oxydatif.
Exact. Alors, tous ces antibiotiques, aujourd'hui, les gens disent « Ah, mais je ne réagis pas aux antibiotiques. » C'est normal, il y en a plein dans ta nourriture. Et en fait, c'est ça. Le corps s'habitue et on ne se rend pas compte, mais on crée à notre tour des toxicités et le corps est mal.
Alors, Jeanne Masse, avant de creuser encore un petit peu plus les bienfaits du véganisme, tout de même, socialement, ce n'est pas évident à mettre en place. Comment faites-vous pour déjeuner et dîner, par exemple, avec vos amis qui ne sont pas véganes ?
Mais je ne dîne pas avec eux.
Zut alors !
Ah bah oui ! Alors, j'ai des amis qui
c'est
sont
triste.
Très sympas. Non, pas du tout, non. Mais j'ai fait un choix. Je fais le choix dans ma vie de déjà aller au restaurant. Pour moi, c'est une torture, hein, parce que vous savez, il n'y a pas que ça. C'est que moi, j'ai été très loin, mais ça, j'invite pas les gens à aller juste aussi loin. C'est que moi, je fais attention aux poils qu'on utilise, aux huiles qu'on utilise. Je fais attention
à
tout ça.
Ça sera l'objet d'un prochain livre. Alors.
Voilà, peut-être. Voilà. Oui. Non, mais ça. Et donc, du coup, non, c'est vrai, parce que d'abord, je ne veux pas imposer à mes amis le fait qu'ils se forcent à manger végétalien, parce que, vous savez, c'est comme aller dans un groupe de fumeurs et vous êtes non-fumeur. Finalement, ça vous fait mal. Et moi, en fait, ce qui me fait mal, c'est de voir dans les assiettes des bouts de viande, parce que moi, je sais ce que ça représente, la souffrance que c'est. Je préfère éviter. Donc, mes amis, je les vois pour prendre un café, voilà, des choses toutes simples
voilà,
comme
en
ça.
En dehors des repas. Voilà.
En dehors des repas.
Pour résumer. Bon, voilà. Alors, on trouve dans les restaurants des plats végétariens de plus en plus souvent, mais quand même, les restaurants véganes, il y en a très très peu en France.
Oui, mais il y en a de plus en plus et ça s'ouvre vraiment.
Il y en a beaucoup plus aux États-Unis, où vous vivez.
Aux États-Unis, oui, là, c'est sûr que, voilà, c'est très tendance aux États-Unis. Rien qu'à côté de chez moi, à Phoenix, il y a 15 grands restaurants véganes qui sont très cotés, qui sont toujours bondés de monde, parce que c'est très tendance et parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on cultive le bien-être. Et on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que jusque-là, les gens s'alimentaient extrêmement mal. Et bien, aujourd'hui, c'est le culte du corps. On est sain à l'intérieur et on le montre parce qu'on est musclé.
Alors, Jeanne Mas, les premières suspicions qui concernent le mode alimentaire des véganes, vous le savez bien, ce sont les carences. Immédiatement, on oppose ça au véganisme, les carences en protéines. Or, en lisant votre livre, qui est vraiment très argumenté, j'apprends que certains végétaux sont source de protéines dites complètes, comme par exemple les graines de chanvre, le quinoa, le sarrasin, les germes de soja. Et j'apprends que l'homme n'a absolument pas besoin des protéines animales pour vivre et vivre en pleine santé.
Tout à fait.
On croit que les protéines animales, en fait, sont celles qui vous donnent le plus d'énergie.
Non,
mais c'est faux.
Non, d'abord l'énergie, ce sont les glucides qui vous les donnent. C'est-à-dire qu'en fait, les gens mélangent tout parce qu'encore une fois, il n'y a pas la connaissance. Sur une assiette, il doit y avoir 45% de glucides, 25% de lipides et le reste, ce sont les protéines. Les protéines dans une assiette, elles doivent être de 15%, 20% grand maximum. Le corps ne fait pas la différence entre les protéines animales et végétales parce que qu'est-ce qu'une protéine ? C'est un assemblage d'acides aminés. Et lui,
je vais vous appeler docteur à la fin de cette émission.
Donc en fait, mais oui, il fallait bien que je comprenne tout pour pouvoir l'expliquer. Et donc, ces acides aminés, comme la protéine est trop grosse, donc le corps ne peut pas l'assimiler toute seule, elle la décompose en acides aminés. Donc dans les végétaux, il y a ces acides aminés. Il n'y a que 9 acides aminés que le corps ne produit pas tout seul parce que les autres, il les produit. Et ces acides aminés, on les trouve tout à fait dans les végétaux, oui. Dans les graines. Et puis, comme on a dit, ce qu'on appelle les protéines complètes, c'est celles qui ont tous les acides aminés dont on a besoin. Les 9 plus tous les autres. Et en fait, le tofu en fait partie, les graines de chanvre. On peut avoir une alimentation totalement complète et saine en étant végétale.
Alors, effectivement, bon, j'adore cette phrase glanée dans votre livre « Génération végane ». Il faut arrêter de penser qu'en mangeant de la viande, on deviendra fort comme un bœuf, car le bœuf, lui, ne mange que de l'herbe. Bon, d'accord, les premiers hommes, les australopithèques, étaient véganes, puisqu'ils se nourrissaient de racines, de fruits, de feuilles, de graines.
Mais les philosophes grecs l'étaient.
Oui, mais tout de même, il y a 2 millions d'années, l'homme est devenu carnivore. Il y a 2 millions d'années, il a commencé à manger de la viande, en plus des fruits et des racines. Donc, il a commencé à avaler du gibier, pêcher, avaler des poissons. C'est pas évident d'effacer 2 millions d'années passées à être carnivore.
Oui, mais on l'était pas autant avant. On l'est devenu juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pendant et en plus il y a des études qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'on retirait tout le bétail aux personnes, lorsque les Allemands le faisaient, on avait remarqué que la courbe de cancer avait totalement chuté. Et après la guerre, les gens se sont remis à manger de la viande et de nouveau les taux de cancer avaient la courbe du cancer avait c'était de nouveau relevé. Enfin, et en fait. Tout ça pour dire oui, mais parce que on a cultivé l'art de la graisse, l'art en fait de manger, de bouffer quelque part. Et en fait, c'est ça qu'on a véhiculé par la suite. Sauf qu'avant, je veux dire, nos grands-parents, ils vous diront, déjà, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On en mangeait une fois de temps en temps.
Bien
et
sûr,
on voyait les animaux.
Cher.
Et les animaux étaient dans les prairies. Mmh. Aujourd'hui, regardez, déjà... ces élevages, où sont les vaches?
Intensives.
Voilà. Mmh. Il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, ce qu'on met dans votre assiette est sain.
Alors, dans ce livre Génération Vegan, vous rappelez que le Covid-19, qui a contaminé quand même 460 millions de personnes dans le monde, n'existerait pas si le monde était vegan, et vous rajoutez que la majorité des pandémies sont liées à la consommation d'animaux d'élevage ou sauvages. Le virus Ebola, la grippe espagnole, le VIH, la tuberculose, la variole. Bon, vous savez, Jeanne Masse, que sur les marchés dans les provinces chinoises en 2022, on vend toujours pour la consommation des chauves-souris, des civettes et des serpents.
Ah oui, mais oui. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est que de toute façon, les mesures ne sont pas prises. Aujourd'hui, on résout le problème avec des vaccins, mais... si on allait chercher la cause et qu'on éliminait la cause, on n'aurait plus besoin de continuer à s'injecter des choses qu'on ne comprend pas totalement. Donc, je crois qu'à la base, il faut le savoir. Hippocrate le disait, que ton alimentation soit ta médecine. Si on commençait tous à s'alimenter correctement et à s'éloigner des animaux, et encore plus des animaux sauvages, parce que vous savez, en fait, les porcs qu'on vend aux Chinois qui vont dans des prairies où, en fait, les chauves-souris viennent mordre les porcs et après, on vous renvoie le porc en Europe et vous le mangez. Je veux pas dire, mais bon, ça n'a pas l'air très super.
Il va y avoir beaucoup de véganes à la fin de cette émission. Bon, toutes les statistiques prouvent que les véganes, en tout cas s'ils contrôlent l'équilibre de leur alimentation en calcium, par exemple, calcium qui est présent dans les amandes, les brocolis, s'ils contrôlent, par exemple, leurs apports de vitamine B12 qui est présente dans les laits végétaux fortifiés, ou chlorure de sodium et magnésium qu'on trouve dans les végétaux, et puis les oméga qu'on trouve dans certaines graines et certaines huiles, et ben les véganes vivent plus longtemps que ceux qui sont carnivores, et surtout ils vivent en meilleure santé. Mais alors, sincèrement, Jeanne Masse, que c'est compliqué d'équilibrer tout ça, parce que il faut presque passer un diplôme de nutritionniste.
Oui, ou alors il faut acheter mon livre.
Ah, voilà. C'est beaucoup plus rapide.
Ouais, ça va... Oui, parce que moi,
c'est
vous
très
savez,
clair.
J'avais zéro information quand j'ai commencé à être végétarienne. J'avais vraiment zéro information, mais je sentais au fond de moi que je faisais la chose juste. Et par la suite, je me suis informée. Et aujourd'hui, je ne lis que des livres sur la santé, tous les articles qui sortent, toutes les nouvelles études. Et voilà. Et aujourd'hui, je partage mes connaissances.
J'aimerais savoir quand même, est-ce qu'il est prudent d'élever son enfant en faisant un vegan dès le plus jeune âge? Et par exemple, mener une grossesse en étant vegan, ça pose pas de problème à l'enfant ou à la mère?
Bah, regardez mon fils.
Oui, c'est vrai qu'il est en couverture de Génération Vegan.
Voilà, et mon fils...
Et il est en pleine forme. Hein,
jamais malade. Et quand il sort, même en hiver avec un t-shirt, il n'attrape même pas un coup de froid. Et quand il l'attrape, en 4 heures, c'est fini. Mon fils, justement, parce qu'il n'a aucune toxicité dans son corps, il est très musclé d'ailleurs, voilà, il est l'exemple même d'un vegan.
Et vous dites qu'il n'a jamais eu de carie, par exemple?
Ah, jamais, non. Voilà. Aucun de mes deux enfants, parce que justement, j'ai fait très attention. Bah, les bonbons et tout ça, faut éliminer. Hein, c'est fait avec de la gélatine de porc. Hein. Arrêtez de donner des bonbons aux enfants.
Mais alors, quand même, un enfant vegan, Jeanne Masse, ne peut pas suivre ses copains au McDo. Donc, votre fils Christopher, il a été privé de ça, il s'en est bien accommodé.
Oui, mais alors, envoyer les enfants au McDo et ne pas surveiller l'alimentation de ses enfants, alors je crois que ça, par contre, pardonnez-moi de le dire, c'est une grosse erreur. Parce que c'est dans les premières années de la vie d'un enfant, on cultive sa santé. Si vous l'envoyez chez McDo en sachant qu'il n'y a que des graisses saturées, là, vous lui foutez déjà son foie en l'air.
Vous savez bien que je vous provoque. Bon, Christopher, okay. D'ailleurs, il propose à la fin de votre livre Génération Vegan quelques recettes de son cru,
oui,
100% vegan et gourmande. Hein.
Gourmande, ah ouais, il adore manger et il adore cuisiner.
Plusieurs que je vais réaliser. Alors, Jeanne Masse, je vous ai toujours connue mince comme une sylphide. Franchement, j'ai beaucoup de mal à vous imaginer en petite fille extrêmement potelée, pour ne pas dire boulotte. Je voudrais comprendre pourquoi votre maman vous gavait-elle de plats roboratifs qui vous étaient carrément interdits de ne pas finir?
Ah, parce que c'était sa culture à elle, c'était sa façon à elle de voir les enfants ronds et gros étaient des enfants en bonne santé. Mais je pense qu'il n'y avait pas que ma mère, c'était l'autre génération qui pensait qu'avoir de la graisse, c'était bon pour la santé. Alors aujourd'hui, on a compris que non.
Une génération qui peut-être avait souffert de la faim pendant justement la guerre.
Peut-être, oui, peut-être, certainement en fait, oui. Après, je n'ai jamais vraiment analysé en dehors du fait que... Elle pense que voilà, les gens un peu ronds sont en meilleure santé que les gens très fins.
Vous dites, il n'y avait ni livres ni musique chez mes parents. Alors, j'imagine qu'une très jeune fille de 17 ans qui fait ses valises pour quitter la France et partir seule vivre en Italie n'a pas forcément été une adolescente très heureuse. Pourquoi avez-vous choisi Rome? Et puis comment avez-vous un jour débarqué à Rome, Jeanne Masse? 17 ans, c'est quand même très très jeune pour quitter son pays.
Oui, bah, j'ai déjà failli quitter à 13 ans et je me suis dit non, ça va faire de la peine à ma mère, donc je reste. Et puis 17 ans, ça a été la limite, quoi. Je pouvais plus là. Mais en fait, 17 ans, je suis partie. J'avais vraiment besoin de vivre ma vie. J'avais vraiment besoin de mettre en avant mes valeurs. C'était compliqué pour moi. J'ai toujours d'abord été très, très indépendante. Et donc, d'être sous le toit de quelqu'un sans pouvoir avoir mon autonomie, c'était plus possible. Et donc, c'est vrai que je suis partie un petit peu à l'aventure. Hein. Mais pourquoi Rome? Pourquoi l'Italie? En fait, bah, là, on part sur un autre sujet. C'est que j'avais ça en moi. Et j'ai vu, quand j'ai commencé toutes mes thérapies spirituelles, on m'avait expliqué qu'au début de sa vie, on repart sur les traces de ses vies précédentes. Et j'ai toujours pensé que mes vies précédentes étaient en Italie.
Vous étiez italienne.
J'étais italienne. Et c'est pour ça que j'ai appris l'italien si facilement.
Dans un autre karma.
Exact.
Voilà, sono molto felice di essere qui. Bon, alors vous êtes restée 6 ans en Italie. Vous avez commencé à tourner dans des pubs, des musiciens vous ont offert des chansons. Et vous avez même commencé une carrière d'actrice en jouant, c'est chic, aux côtés de Vittorio Gassman dans un film de Dino Risi.
Oui. Oh bah, Cher Papa, ça s'appelait
oui.
Cher Papa. Et oui, bah non, j'avais fait d'autres films avant, plus intéressants que celui-là, parce que celui-là, j'étais en punk et je devais faire juste la punk et chanter. Donc ça, il n'y avait pas vraiment un rôle. J'ai joué d'autres rôles avant. Et puis après, j'ai eu un joli rôle dans Ricomincio da Tre avec Massimo Troisi, qui était une superstar en Italie. Et puis par la suite, c'est vrai que moi, c'était plus la scène, mon truc. Donc j'ai commencé la scène et j'ai pas arrêté.
Additionnant les films, on aurait pu imaginer que vous fassiez carrière là-bas, puisque vous étiez vraiment sollicité par de grands metteurs en scène. Alors, pourquoi avez-vous plié bagage pour entrer en France? En fait, Jeanne Masse, qu'est-ce que l'Italie, finalement, ne pouvait pas vous offrir?
Mais l'Italie était en train de m'offrir aussi autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis venue en France pour préparer mes maquettes, il y avait également un contrat avec une autre maison de disques, CVS, qui m'avait été offert à ce moment-là. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, bah, je crois que ça a été la rencontre avec Jean-Jacques Souplet qui a été l'élément déclencheur. Puis le fait aussi que j'aimais beaucoup le style de musique que je venais et que j'apportais. J'écrivais en français. Et donc, j'ai laissé l'autre côté avec Pasquale Minieri, qui avait travaillé aussi avec moi. Et voilà, donc de toute façon, je crois que j'étais destinée à partager cette passion musicale avec le public.
En France, vous avez régné carrément sur les années 80, Jeanne Masse, en devenant la première et l'unique, d'ailleurs, artiste néo-punk ultra populaire. Cheveux gominés sur crête d'Iroquois, maquillage gothique et puis tube plus efficace que des scies musicales. Ben, on oublie que pendant ces 10 ans de triomphe, de toute première fois en Rouge et Noir, en passant par Johnny Johnny, c'est vous qui avez écrit absolument tous les textes de ces chansons.
Tout à fait. J'écris mes textes depuis le début de ma carrière et j'avais commencé aussi en Italie à les écrire. En anglais, en italien, et j'ai commencé comme ça, en Italie, et par la suite, j'ai toujours écrit mes textes.
Bon, Jeanne Masse, comment vous êtes-vous retrouvée en 82 sur le casting de L'été meurtrier de Jean Becker à faire des essais pour le premier rôle, décroché finalement par Isabelle Adjani? Quelle scène vous avez-t-on demandé de jouer pour le casting justement de L'été meurtrier?
Oh, je m'en souviens plus je me souviens du casting avec Jean Becker, parce que j'étais venue en France pour cela. J'étais très étonnée d'ailleurs, quand j'habitais en Italie, qu'on me propose un scénario français. Je sais pas comment mon agent avait réussi à faire ça. Non, il est passé par mon agent et mon agent m'a envoyé le scénario. J'ai dit, ah bon? Et
donc, c'est Dominique Besnéard qui faisait tous les castings. Ah. Donc, il est allé vous chercher jusqu'en Italie.
Voilà. En Italie, voilà. Alors, je sais pas comment ils m'ont trouvé. Parce que je pense pas que mon agent me mettait autant en avant, mais donc le scénario m'est arrivé. Je me suis demandé si j'étais capable de faire ça, parce qu'il y avait quand même beaucoup de scènes nues, et moi j'étais quand même assez pudique. Hein. Et donc j'ai fait un premier casting avec Jean Becker, qui était adorable. Mais vraiment, c'est un homme formidable, d'une douceur, d'une gentillesse. Ça changeait vraiment de Dino Risi, qui était très très violent. Mmh. Et Et puis, ça ne s'est pas fait parce qu'après, il m'a écrit en disant, voilà, la production a décidé que ce serait une artiste plus connue en France, Isabelle Adjani. J'ai trouvé ça très, très bien parce qu'évidemment, elle est formidable. Et puis, quelque part, je sais, voilà, ça s'est fait comme ça, mais c'était le destin. Hein.
Mais c'est un joli souvenir.
Oui, c'était magnifique.
Hein. Alors, à la fin des années 80, Jeanne Masse, après une série de tubes inoxydables, eh bien, vous êtes séparée de Romano Musumara qui composait lui, donc, les mélodies des chansons, et dont vous dites d'ailleurs que c'était quand même un homme assez étonnamment cruel, ce qui m'a été rapporté par plusieurs artistes. Voilà, c'est moi qui affirme ça. Je voudrais que vous nous racontiez cette remise de disque d'or en présence du groupe Tok Tok, oui, à l'époque. Donc, vous êtes acclamé, vous êtes la star, on vous remet un disque d'or, et là, Musumara, qui compose vos chansons, s'approche de vous et...
En fait, on était assis, il y avait Tok Tok, le groupe Tok Tok, il y avait Romano, il y avait moi, il y avait David Stockley qui était de EMI, le nouveau PDG, qui expliquait pourquoi, tout ce qu'on avait vendu et tout ça. Et il s'est penché vers moi, il m'a dit « je ne comprends pas ton succès ». Et là, je me suis dit...
J'ai pas bien entendu ce qu'il vient de me dire, c'est pas possible.
Non, je voulais dire un truc en italien, je me suis retenue. Mais en fait, je n'ai pas... C'était très blessant, justement, au moment où on me remettait un grand disque d'or. Mais bon, j'ai joué le jeu, j'ai souri pour les photos, j'ai fait comme si de rien n'était. Et puis, j'ai été voir mon PDG le lendemain. Et je lui ai dit, je ne veux plus continuer de travailler avec lui parce qu'il a du talent, mais humainement, c'est impossible.
Parfaitement cohérent. Voilà. Alors, Jeanne Masse, la décennie 80, vous l'avez clôturée en étant la première artiste féminine française à se produire à Bercy, mm-hmm, et 4 soirs de suite à Bercy. Bon, vous êtes devenue maman, vous avez eu envie de faire évoluer votre style, votre répertoire, de ne pas figer les choses. Mais ça, eh ben, les médias ont eu du mal à l'accepter. Donc, le public, lui, a eu du mal à suivre. Alors, comme vous vous sentiez prisonnière d'une image, eh bien, votre tempérament de globe-trotteuse a repris le dessus. Et au début des années 2000, avec 2 enfants sur les talons, vous avez changé de continent. Culotté,
oui,
quand même.
Oui. Oui, bah oui, on ne me donnait plus l'opportunité d'évoluer musicalement. Et donc, je commençais à sentir vraiment que, bah, tout s'arrêtait, quoi. Et je me suis plutôt que de piétiner ici, je vais piétiner au soleil. En fait, j'avais besoin d'un renouveau. J'avais juste besoin de me ressourcer d'énergie nouvelle et tout ça. Et puis, je voulais aussi donner une chance à mes enfants pour qu'ils deviennent bilingues, qu'ils, ouais, voient le monde un monde totalement différent de celui qu'ils avaient vécu jusque-là. Et en fait, voilà. Donc, du coup, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai pris des allers sans retour. Le mec de l'agence m'a dit, mais Madame Masse, ça coûte moins cher de faire les allers-retours. J'ai dit non, vous comprenez pas symboliquement, c'est je pars. Il n'y a pas de retour possible.
C'est extraordinaire. Mais je me demande, il faut plus de culot, d'inconscience, ou alors il faut rêver vraiment très 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 fort pour se réinventer complètement à 9000 km de son pays quand on a eu une première vie de star, justement, ici.
Il faut rester humble. L'Amérique, elle m'a vraiment appris à rester humble. C'est... Quand je suis arrivée, c'est tu n'es rien, tu n'es personne et on s'en fout que tu sois là. Quelque part, c'était ça. C'est vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous aurez pas de carte de crédit parce que on vous connaît pas et tout ça. Donc au bout d'un an, on voit qu'en fait vous payez bien votre loyer, vous payez vos factures, vous payez tout ça. Donc vous avez un credit score qui augmente et donc là on dit ah oui, donc d'accord, vous êtes un bon payeur, donc vous avez le droit à une carte de crédit. Voilà, en fait, il faut prouvez constamment que vous êtes quelqu'un de bien.
Jeanne Masse, on a un tout petit peu survolé le sujet, mais quand même, si on creuse, franchement, vous vouliez renaître en Amérique. Bon, vous arrivez en Californie, mais quelle nouvelle vie imaginiez-vous lorsque vous avez débarqué en 2005, donc à Los Angeles, avec dans votre sillage une pile de valises et surtout 2 ados à gérer seuls qui, comme vous, allaient devoir se fondre dans une autre culture, sur un autre continent. Je voudrais comprendre, la musique restait votre priorité ou bien vous aviez envie vraiment d'explorer autre chose ?
Je voulais tout explorer. J'ai pensé, j'ai tellement à apprendre, j'ai tellement à apprendre encore. Je veux être boulimique de connaissances. Voilà, je veux explorer toutes sortes de... Et j'ai commencé à écrire des scénarii, dont un qui intéressait, qui par la suite, l'idée a été repiquée, mais...
L'idée a été repiquée.
Oui, j'ai retrouvé mon idée parce que je travaillais, quand j'ai commencé à parler de cette idée avec un Français et tout, et donc après il est parti et j'ai revu mon idée, en fait, c'était... Mais c'est pas grave, ça voulait dire dire, j'avais une bonne idée.
C'est devenu un film en France.
Ouais.
Vous êtes en train de nous dire ça.
Oui, tout à fait. Et donc,
je meurs d'envie de vous demander le titre du film, bien
non,
évidemment. Mais
bah
bon,
non, ça je le dévoilerai
elle est
pas.
Diplomate, elle ne dira pas.
Non, parce que je m'en moque. Mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire et puis à gérer aussi la vie de mes deux enfants. C'était pas simple pour eux de changer totalement, radicalement comme ça de vie et de pays. Et puis je me suis inspirée de toute cette nouvelle énergie qu'il y avait là-bas, et j'ai commencé à faire des albums avec un DJ, et on a créé des choses extraordinaires sous le nom de La Blonde.
Mais voilà, La Blonde.
Alors, La Blonde.
Voilà, en fait, c'était de la techno dance, n'est-ce pas? Et ça a bien fonctionné
mais
sur
oui.
le marché américain, parce que vous êtes entré carrément dans les charts. Ça vous a amusé de jouer avec ces identités comme Prince, par exemple, le faisait avec Love Symbol?
Eh oui.
C'était un peu ça.
Bah oui, c'était ça. Ou Sheila qui
c'était
était revenue avec...
Voilà.
Et en fait, oui. Mais c'était ça. Tout ce que je ne peux pas faire en France, eh bien, je vais le faire aux États-Unis.
Vous avez créé une société de production de courts-métrages,
oui.
Rock and Movies. Vous avez repris, paraît-il, des études de psycho à l'université.
Oui.
Bah alors, il faut être parfaitement bilingue pour ça.
Mais c'est le meilleur moyen d'étudier l'anglais, hein, c'est d'aller à l'école.
Certes, mais sur les bancs de l'université, il faut quand même bien
assurer.
Jongler,
il
fallait
oui.
assurer.
Oui, tout à fait.
Et puis donc, la musique. Alors, comme je l'ai dit, ce disque, Missing Flowers, il est entré dans les charts américains. Mais alors, faire carrière là-bas, si on n'est pas porté par une équipe surpuissante, c'est compliqué. C'est ce qu'a compris par exemple Lara Fabian face au fameux René, le producteur et mari de Céline Dion. Il faut avoir des équipes qui fightent les unes contre les autres.
Oui.
Donc finalement, vous êtes concentré sur la production, sur l'écriture
oui.
de courts-métrages
oui.
et même sur le coaching, c'est ça? Vous avez écrit des pièces de théâtre?
Oui, tout à fait. Mais mon but n'a jamais été de faire carrière aux États-Unis, mais d'apprendre. En fait, de prendre du plaisir. Et ça, c'est la chose la plus difficile lorsqu'on fait mon métier, c'est de prendre du plaisir. Et en fait, c'est dans les connaissances, l'acquisition des connaissances. Puis il y avait tellement de choses à apprendre. En fait, moi, de faire carrière, ça n'a jamais été mon leitmotiv. C'était la reconnaissance de mon talent. Et là, en fait, aux États-Unis, pareil. Ce que je voulais, c'était qu'on reconnaisse que j'avais du talent. Et donc, quand mes scénarios ont été repris par des metteurs en scène pour faire leur film, là, pour moi, c'était la reconnaissance d'un talent que j'avais.
Vos enfants étaient heureux aux États-Unis. Je dis étaient parce
oui.
que votre fille aînée est revenue en France.
Oui, ma fille n'était pas totalement, puisque Victoria était déjà plus vieille. Elle venait de passer son bac vieille. Non, elle venait de passer son bac et elle avait tous ses amis et tout ça en France. Elle avait ses racines. Ma fille adore la littérature française. Et donc, elle a senti à un moment que elle se détachait trop de ce qu'elle aimait. Donc, elle est revenue en effet. Mais mon fils, lui, il est devenu américain très vite. Mais
vraiment. New York, lui.
Non, lui, il vit dans l'Arizona, il a monté
comme
sa
vous.
Propre boîte.
Voilà.
Non, mais moi, j'ai suivi mon fils. Hein. C'est mon fils, on vivait à New York. Quand on est parti vivre à New York, c'est lui qui m'a dit, moi, je rentre dans l'Arizona. J'ai dit, mais non, Chris, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien à faire dans l'Arizona. Il m'a dit, non, je sais ce que je vais faire. Aujourd'hui, Christopher est l'un des trois ingénieurs les plus cotés dans l'Arizona. Et il travaille pour le NFL.
C'est prodigieux.
Ouais.
Jeanne Mas,
ouais.
Vous n'avez peur de rien, vous bougez sans cesse.
Oui.
Je me suis laissé dire qu'à Los Angeles, vous avez déménagé 3 fois en 3 ans.
Oui.
Puis vous êtes partie à New York. Et puis vous êtes posée en Arizona, où vous avez acheté un ranch, puis une maison un petit peu plus petite. Mais alors,
et puis je suis partie à New York, et on
encore,
a déménagé 2 fois
et puis
à
voilà,
New York.
Là, vous êtes encore en Arizona.
Là, après, je suis repartie dans l'Arizona, j'ai déménagé 3 fois dans l'Arizona.
Parce que, attendez, l'Arizona, c'était quand même un ranch
ouais.
visité par les coyotes, les scorpions, les serpents. Enfin,
c'était beaucoup.
On était dans l'Ouest.
J'avais une magnifique maison, j'avais mis toutes mes économies dans cette maison. Et en fait, on n'est pas préparé. On arrive d'Europe où tout est comme ça. Puis là, on se retrouve en plein désert avec des scorpions, des tarentules, des serpents à sonnette. Et puis, les coyotes, à la limite, c'est rien, je vous assure, mais les sangliers qui viennent bouffer toutes vos plantes, là ça fait mal. Et du coup, c'est lorsque j'ai vu un scorpion, parce que dans l'Arizona, les scorpions, ils sont un peu transparents, mais ils grimpent sur les murs, puis après ils perdent l'équilibre, donc ils tombent. Et quand j'ai vu le scorpion tomber sur la tête de mon fils, j'ai dit ok, c'est fini. Là, l'Arizona, là, on déménage, on va là où il y a du goudron, ils peuvent pas traverser parce que ça leur brûle les pépates et les pauvres. Et donc, du coup, voilà, j'ai quitté le désert.
Mais quelle maman, c'est Calamity Jane. Bon, on a évoqué tout à l'heure votre fille aînée qui, elle, folle de littérature française, est rentrée en France. Votre fille, donc Victoria Mas, elle a publié Le bal des folles, couronnée par le prix Renaudot des lycéens. Je voudrais savoir, vous avez été impressionnée, vous avez été bouleversée, vous avez été, bien évidemment, j'imagine, envahie de fierté à la lecture de ce roman, Le bal des folles. Quand vous a-t-elle donné à lire le manuscrit?
Lorsqu'il a été imprimé.
Vous ignoriez tout de ce qu'elle faisait
avant? Oui, et en même temps,
avant.
Je trouve que c'était bien parce que Victoria s'est créée toute seule. Elle ne me doit absolument rien. Et je crois que lorsqu'elle a voulu, enfin, lorsqu'elle était rassurée que son éditeur était content que ce livre allait sortir, elle a voulu me le présenter. Et d'ailleurs, elle en a écrit là un deuxième qui est formidable et que j'adore, qui s'appelle Un miracle. Voilà. Et du coup, elle me l'a dit, mais... moi, j'étais heureuse pour elle, mais pas du tout surprise de ce talent qu'on lui reconnaissait, parce que moi, j'ai toujours vu ma fille avec un bouquin à la main et passionnée de littérature. Donc, je savais qu'à un moment, et puis elle écrivait, depuis qu'elle est toute petite, elle écrivait. Donc, je savais qu'un jour, voilà, elle y arriverait. Le public allait la regarder, allait l'écouter, allait la lire. Donc, ça, c'est... Et puis, c'est quelqu'un... pour moi, ce qui est important, c'est que mes enfants soient avant tout, qu'ils réussissent dans leur vie et socialement, c'est bien parce que c'est bien pour eux. Mais moi, personnellement, en tant que maman, je veux que ce soit des gens bien, qui vivent dans le respect des autres, qui soient humbles et surtout qui soient sensibles à ce qui se passe dans le monde. Et là, je crois que j'ai réussi ma mission.
Jeanne Mas, votre passeport est franco-américain. Quand vous êtes en Arizona, la France vous manque au bout de combien de temps?
Je sais pas, je calcule pas, j'ai pas la notion du temps. Donc, je sais pas, mais je pense très souvent à la France, parce qu'évidemment, je suis en contact avec mes amis en France, avec mon public, avec mes parents, avec ma fille. Mais, et après, je rentre...
Elle vient vous rendre visite assez souvent, Victoria, ou pas
non,
trop,
non,
en
pas
Amérique?
Trop. Non, non, pas trop. Elle préfère... aime pas trop les États-Unis, en fait.
Ah,
elle est vraiment très française.
Mais vous, Jeanne Mas, est-ce que vous avez déjà songé à rentrer définitivement en France ou en Europe?
Oui, j'y ai pensé, bien sûr, on y pense, l'Italie me manque, la France me manque régulièrement, là ça fait 3 mois que j'habite en France et je me dis, on vit quand même très bien en France. Et en même temps, je suis tellement attachée à cette liberté américaine et puis j'ai tellement construit là-bas et il y a mon fils, il y a mes habitudes, il y a les plantes, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je peux faire, j'ai encore ma société, j'ai encore plein d'idées, plein de choses à créer que... Voilà, c'est compliqué.
Elle est faite de quoi la liberté aux États-Unis par rapport à la liberté dont on dispose en France?
Il n'y a pas de préjugés. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où vous voulez démarrer quelque chose, vous n'allez pas trouver des bâtons dans les roues où les gens vont vous dire « mais non, tu ne devrais pas faire ça ou ça ». On vous encourage constamment, constamment. Et ça, c'est vraiment très très bien parce que voilà, c'est vrai que c'est un pays qui ne juge pas. C'est formidable quand même de sentir que finalement tout ce qu'on va entreprendre, ça ne dépend que de toi, du travail que tu vas effectuer. Moi en fait, je dis ça tout simplement parce que dans mon cas, quand moi j'ai proposé au CNC un premier scénario, on l'a jeté non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'on m'a dit mais non, c'est Jeanne Mas,
donc
elle a qu'à se produire toute seule. Ils l'ont pas lu.
Voilà.
C'est ce qui m'avait été rapporté par le producteur. J'ai trouvé ça injuste. Et donc c'est vrai que là-bas, je suis au niveau de tout le monde et que finalement je ne vais briller que si j'ai du talent. Mais on ne m'empêche pas d'explorer et d'avancer. Tout est welcome.
Jeanne Mas, le livre que vous faites paraître chez Hugo New Lab, Génération Vegan, va vraiment interpeller beaucoup de monde parce qu'il est riche de 1000 informations et témoignages de scientifiques comme de vegans de longue date. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes devenue vegan depuis 10 ans et affirmez n'être jamais malade et avoir une énergie débordante, ce qu'on constate au cours de cette conversation. 350 000 personnes en France sont véganes. Et les chiffres grimpent chaque année, même si c'est un mode alimentaire qu'il faut adopter quand même avec beaucoup de contrôle et une certaine vigilance. En fait, est-ce que vous conseillez aux gens de devenir peut-être d'abord végétariens, puis véganes?
Oui, tout à fait. Pour eux déjà, pour qu'ils ne se sentent pas... mais après, tout dépend du niveau de motivation. Parce que on peut dire du jour au lendemain... eh bien tant pis, à partir d'aujourd'hui, je deviens végane. Et les trois premiers jours, on va sentir qu'on a peut-être un peu faim parce que les protéines, étant végétales, on les digère beaucoup plus facilement que les protéines animales, comme les œufs qui ont mis un temps fou, la viande, je raconte même pas. Et donc, c'est vrai qu'on va sentir, mais au bout de trois jours, on va sentir cette énergie nouvelle. Et ça, tout le monde vous le dira, je me sens tellement bien que ça vaut le coup d'essayer.
Alors, vous dites que les animaux carnivores vivent dans une agressivité perpétuelle face à leurs victimes et que les animaux herbivores sont des animaux pacifiques. Bon, sans faire de parallèle un peu niais, adopter un mode alimentaire vegan transforme le comportement des humains et leur vision du monde ?
Tout à fait. Influence de toute façon le caractère des personnes. Parce que, alors, ça, certains vont rigoler, mais c'est vrai que les plantes se nourrissent d'énergie positive, de soleil et d'eau. Les animaux se nourrissent, en fait, de tout ce qu'on veut bien leur donner. Et il y a beaucoup de toxicité dans leur alimentation. Et puis, il y a aussi tout ce stress de la mort, tout ce stress de la souffrance. Mmh. Et donc, ça crée des toxines dans leur viande et qui influencent également notre métabolisme. Et lorsqu'on essaie de les digérer, parce qu'on les digère mal, eh bien, ça intoxique le corps. Il faut savoir qu'une digestion rapide est la plus salutaire. C'est pour ça que les carnivores qui digèrent très vite et donc ont un côlon très très court, donc ils éjectent très vite les toxines. L'homme, non. Son intestin est super long. Mmh. Et son côlon, il met entre 12 et 18 heures, je crois, à digérer sa viande, son steak. Donc, il faut faire très attention à ça parce que pendant ce temps, il y a une fermentation et il y a dans l'intestin, comme un peu comme le roquefort. Et donc, il y a des bouts qui restent et donc ça crée des inflammations et tout ça. D'ailleurs, tous les grands sportifs vous le diront, depuis qu'ils ne mangent plus de ceux qui sont devenus véganes, ils n'ont plus d'inflammation musculaire parce que justement, c'est la viande qui crée toutes ces inflammations.
Bon, alors on sait que vous défendez la cause animale et vous appliquez à fond vos convictions, ce sont vraiment pas de vaines formules. J'ai appris par exemple, Jeanne Mas, j'ai appris que l'année dernière, la fervente défenseuse de la cause animale que vous êtes avait vendu ses bijoux pour financer l'hébergement d'un petit taureau qui, miraculeusement, avait réussi à s'enfuir à la porte de l'abattoir. Alors, faut nous raconter l'histoire parce que dans sa terreur et sentant la mort programmée justement par les hommes, et ben ce jeune bovin, il avait traversé toute la ville et puis il était allé se réfugier dans un bois et là, et je là, crois que ce sont des pompiers qui sont arrivés.
Qui sont intervenus et qui l'ont anesthésié.
Avertis par les témoins.
Oui, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est là aussi où c'est très... C'était en 2022, au mois d'avril, où j'avais les deux concerts et donc j'ai mis tous mes objets personnels à la vente pour aider la Fondation Bardot. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce petit veau s'est échappé du camion qui l'emmenait à l'abattoir. Ce qui prouve encore aujourd'hui que tous les animaux savent et ont conscience qu'on les emmène à la mort. Ok ? Et donc, il s'est échappé. Il a eu une chance inouïe, c'est que, en fait, ce sont les pompiers qui sont intervenus, non pas les policiers qui l'auraient abattu. Et les pompiers, en fait, l'ont anesthésié. Et la viande anesthésiée, en fait, pendant 10 jours, n'est pas comestible. Donc, la Fondation Bardot, tout de suite, est intervenue. Il y a eu des donations qui ont été faites pour pouvoir racheter ce veau à l'abattoir et le sauver. Et moi, ce que j'ai fait en intervenant et en vendant mes affaires personnelles, c'est que j'ai procuré 2 ans d'alimentation pour ce veau.
Donc, grâce à vous, en fait, maintenant, il coule des jours heureux. Ce
voilà,
veau
pendant
2 ans.
Alors, il faut continuer. Mais il faut continuer d'aider les associations et la Fondation Bardot qui sauvent tellement d'animaux, mais vraiment tellement d'animaux. Et alors, il y a aussi cet événement parce que j'ai été visiter, donc, là où habite Étienne, donc, le veau, le torillo. Et il habite chez un éleveur qui a changé de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a décidé de ne plus envoyer ses bêtes à l'abattoir. Il s'est reconverti. Aujourd'hui, il sauve les animaux. C'est formidable comme histoire et j'en ai rencontré 2 et j'ai trouvé ça très noble. Donc j'étais très fière de rencontrer ces 2 éleveurs, ex-éleveurs.
Jeanne Mas, un vrai vegan ne porte pas de laine. Mais
non.
Alors, vous faites comment en hiver ?
Alors, ça c'est la seule chose. Aujourd'hui il y a tellement de synthétique.
Oui, mais bon, quand ici en France on a -5, le synthétique c'est.
Alors le problème de la laine, vous savez que les moutons ont besoin d'être tondus. Le problème c'est que c'est fait avec beaucoup de violence et la majorité de la laine vient de l'Australie et dans tous ces grands hangars où on prend ces pauvres moutons pour les tondre, on leur casse les pattes, on les blesse. C'est insensé. Donc si aujourd'hui la production et l'Australie avaient un peu plus d'empathie et faisaient ça dans des normes où l'animal ne souffre pas, il n'y aurait aucun problème à porter de la laine.
Et vous ne portez pas de cuir, bien évidemment, non plus. Donc c'est quoi le cuir vegan ?
Alors, le cuir vegan est à base de feuilles d'ananas.
À base de feuilles d'ananas ?
Des feuilles d'ananas. Et c'est dingue !
Incroyable.
Et donc, moi, tous mes sacs sont vegan. Et d'ailleurs, je laisse toujours l'étiquette pour bien qu'ils sont totalement vegan. Il y a plusieurs... en fait, on prend les peaux des fruits et on les traite. Et on en fait des sacs, on en fait des chaussures. Moi, mes chaussures, là, elles sont en tissu. Mais on peut tout trouver aujourd'hui.
Mais alors, par exemple, tous les produits de maquillage sont faits avec des graisses animales.
Il y en a énormément.
Donc, vous y retrouvez de quelle manière ? Il y en a de moins en moins.
Hein. Il y en a de moins en moins. Et alors, bon, la chose formidable aussi, c'est que maintenant, ce n'est plus testé sur les animaux. Et j'espère que cette loi va rester parce que là, les Européens, ils veulent la changer. Non, il faut arrêter de tester sur les pauvres animaux parce que déjà, si on est forcé de tester, c'est que c'est pas bon pour l'homme. Donc, il faut arrêter ça et que les animaux n'ont pas à souffrir alors qu'aujourd'hui, on trouve des marques formidables qui fait du maquillage vegan, 100% végétal, non testé sur les animaux.
Alors, quittons le maquillage, revenons à l'alimentation. Pour donner du goût à l'alimentation vegan, j'imagine que vous êtes devenue la reine des épices.
Non, pas vraiment. Moi, non, pas trop. Les épices, j'aime pas trop ça. J'aime bien le curcuma, mais je mets pas trop d'épices, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est sain. Donc, moi, j'adore tous les légumes à la vapeur.
Vous êtes vraiment une végane radicale. Hein.
Mais alors, ça va... En fait, ça, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je m'alimente mieux quand je fais comme ça, parce que j'aime ça, en fait. Moi, j'aime les légumes à la vapeur, parce que je me sens tellement bien après, avec de l'huile d'olive et du citron. Et en fait, non, moi, c'est pour ça que je suis pas du tout, une femme à marier, parce que je crois qu'un homme s'ennuierait très vite avec moi.
Bon, y a pas
je cuisine pas.
Il n'y a pas d'obèses chez les véganes, bien sûr.
Si, non, il n'y a pas d'obèses, mais il y a quand même des gens qui prennent du poids.
Quand même. Attends,
moi, j'en prends aussi du poids, parce que moi,
ça
j'adore...
Ça ne se voit pas,
Oh, c'est gentil, mais j'adore le peanut butter, c'est le beurre de cacahuète. C'est vrai que quand j'en mange trop, mais alors ma peau, elle est super douce parce qu'en fait, c'est plein d'oméga 6, oméga 9, oméga 3. Et donc, votre peau, vous la voyez, elle est toute douce comme ça. Mais c'est vrai que vous avez tendance à prendre un peu de poids parce qu'il y a beaucoup de calories. En fait, il faudrait calculer le nombre de calories qu'on prend par jour. Il ne faudrait pas dépasser les 2005.
Bon, alors, ceux qui plaident d'une manière formidablement efficace pour le véganisme, c'est que Lewis Hamilton, 6 fois champion du monde de Formule 1, est végane. Et voilà, et Lewis Hamilton dit que ça a considérablement amélioré sa condition physique. Et par exemple, Anthony Mullally, vous le signalez dans votre livre, Génération Végane, qui est l'une des stars du rugby au Royaume-Uni, est lui aussi végane. Et c'est un grand colosse de plus d'1m90, 100 kilos. Voilà. Donc, on n'est pas face à des esprits éthérés. Et vous m'avez dit qu'il y a bien d'autres sportifs encore.
Serena Williams.
Incroyable.
Elle est l'exemple même de la végane qui n'a aucune carence et qui a une musculation, parce qu'en fait, c'est ce que les gens ont peur, mais je vais perdre ma musculation. Mais non, encore une fois, les protéines végétales sont aussi bonnes que les protéines animales. Donc, et Serena Williams montre qu'elle est extrêmement musclée tout en étant végane.
Serena Williams et Carl Lewis.
Oui, et Carl Lewis.
Extraordinaire. Et pour conclure cette conversation, Albert Einstein, à la fin de sa vie, était devenu végétarien, ce qui, il faut bien le dire, dans les années 50, puisque Einstein est décédé en 55, n'était pas courant.
Non. Voilà. Non.
Alors, merci infiniment, Jeanne Masse, pour ce moment vraiment formidable passé ensemble. Il faut plonger dans le nouveau bouquin que nous propose Jeanne, écrit bien sûr par elle, qui pratique le véganisme d'une manière très convaincue depuis 10 ans, Génération Végane, publié chez Hugo New Life. Je vous embrasse, Jeanne,
à très
bientôt.
Moi aussi, merci de m'avoir invitée.
À bientôt.
À bientôt.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.